ce qui me gave, c'est juste cette espèce de hiérarchie, de la subversion et de l'importance des choses, qui, comme par hasard, place ce qui est le plus connoté féminin tout en bas. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Lilith, Martine et les autres, une émission féministe sur Radio Canut 102.2. Aujourd'hui, on parle de misogynie. La misogynie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un peu la grande question de cette émission.
Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde.
Cette émission qui risque d'être une première émission d'une longue série. En tout cas, j'espère. Ce qui nous a frappé en commençant à préparer cette émission, c'était d'abord le vide. Le vide qu'il y a autour de la misogynie, le vide en termes de production, de réflexion, de livres, d'outils. Il n'y a rien. Alors, peut-être que j'ai mal cherché, en tout cas, ce n'est pas hyper accessible. Et même quand on va dans des bibliothèques féministes, où on se dit que là, il y a quand même de la matière, on trouve quand même pas de livres qui parlent directement de misogynie. Alors, ce vide de réflexion, même dans les milieux féministes, même dans les milieux libertaires et féministes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça évoque un peu cette idée que la misogynie, c'est pas un combat politique. Le sexisme, le féminisme, c'est politique. La misogynie, non. Ah, pourquoi ? Est-ce que la misogynie, réellement, c'est pas politique ? Est-ce que c'est pas une lutte à avoir, à lutter contre la misogynie ? Est-ce que c'est naturel ? Et puis, qu'est-ce que c'est d'abord la misogynie, en fait ? Parce qu'on n'a même pas cette base-là. On a juste la base de Wikipédia qui fait un article qui est moins long que l'article sur la misandrie. C'est dire. Donc, voilà. Et réfléchir à pourquoi la misogynie, c'est pas du sexisme. Qu'est-ce que ça a de différent ? Comment ça s'articule ? Alors, dans cette émission, ce qu'on essaye de faire, c'est de lancer des pistes de réflexion parce qu'on part de presque rien. Quand je dis presque, c'est parce que il y a quand même quelques petites choses qui sont faites sur la misogynie. Dans le milieu féministe et dans le milieu transpédéguine notamment. Alors, plusieurs textes qu'on va entendre et plusieurs réflexions aussi ont eu pour base la brochure Un bruit de grelot, dont je donnerai les références à la fin, qui a fait un dossier spécial misogynie il y a quelques mois. Donc dans cette émission, on essaye d'articuler la misogynie à d'autres réflexions politiques. Et ce que je voudrais dire, c'est surtout que je ne suis pas forcément sûre de ce que j'avance dans cette émission. Parce qu'en plus, on n'est pas « on », on est juste « je », c'est une émission que j'ai faite toute seule. Voilà. Pour le début de l'émission. Dans cette émission, à plusieurs moments, vous entendrez parler de Butch ou de Femme. Donc Butch et Femme, ce sont des identités politiques, qui désignent pour Butch les lesbiennes qui s'approprient les codes masculins et Femme, les lesbiennes qui s'approprient et détournent les codes féminins. Je voulais aussi commencer en parlant de voix. En commençant par dire que la misogynie intégrée, puisque c'est bien de ça qu'on parle ici, on va revenir dessus, fait qu'on accorde plus d'importance aux voix graves, aux voix posées. Moi-même, j'essaye de faire attention à ça, mais ça manque pas. Quand je passe les stations de radio, j'accorde toujours plus d'importance à une voix masculine, dite masculine, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et de fait, je donne plus de crédit à la personne à qui elle appartient. J'imagine toujours que c'est une personne plus importante. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec ça parce que dans ma vie de tous les jours, j'en joue. J'arrive à avoir une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieuse. Et Voilà, c'est un outil que j'ai pour qu'on me prenne au sérieux. Là, j'ai pas envie de faire ça. Donc, vous êtes prévenus, soyez attentifs, même quand je parle très aiguë, avec une toute petite voix. La misogynie, c'est quand il suffit de mettre une perruque avec des cheveux longs pour se permettre de dire des trucs bêtes et ridicules et que ça fasse rire tout le monde.
Il est beau ce chevaux ! J'en ai jamais vu de ce genre !
Quoi, les chevaux de bois ?
Oh, tu sais, moi, les races...
Qu'est-ce que la misogynie ? Difficile à définir. Certains le définissent comme la haine, le mépris des femmes. Ici, il nous semblait plus intéressant d'essayer de l'articuler par rapport au sexisme. Sexisme qu'on pourrait décomposer en deux parties. D'une part, l'imposition de genre précis à des personnes désignées par un sexe biologique à la naissance. Donc l'imposition du masculin et du féminin. Et par ailleurs, la dépréciation du féminin par rapport au masculin. C'est ce deuxième niveau-là qui est touché par la misogynie, qui est donc créée, renforcée par la misogynie. Et c'est surtout en fait à ça que le mot misogynie me renvoie, moi, personnellement. C'est cette dépréciation constante du féminin, plutôt qu'une haine des femmes. C'est donc de cette misogynie intégrée dont on va parler, cette misogynie qui nous colle à la peau, même quand on est féministe. Le rapport entre le sexisme et la misogynie semble complexe. Qu'est-ce qui relève de l'un ? Qu'est-ce qui relève de l'autre ? Là où j'en suis de mes réflexions, grâce aux discussions que j'ai pu avoir avec des copines là-dessus notamment, c'est l'idée que le sexisme est un système de pouvoir, un système de domination, et qu'il se diffuse grâce à plusieurs vecteurs. Donc il y a les vecteurs institutionnels par exemple, comme le droit ou la justice, mais aussi des vecteurs plus intégrés par les individus. Et là-dedans, on a la misogynie. De la même manière, on a l'essentialisme d'ailleurs. Le fait de trouver que les femmes sont vraiment formidables parce qu'elles ont la capacité de faire plein de choses en même temps, comme faire la cuisine en s'occupant des enfants, tout ça sans râler et en étant belle. C'est vrai que c'est réellement un exploit de réussir à faire ça. Par contre, on peut mettre en doute le fait que ce soit dû à une force intérieure que l'on peut appeler l'éternel féminin. Donc ici, la misogynie sera examinée comme un vecteur de diffusion d'idées, de valeurs, de croyances qui participent au maintien d'un système de domination, le sexisme et d'un mode d'organisation sociale, l'hétéropatriarcat.
Je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à trou-trou, mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout.
Pour abattre le patriarcat, plein d'armes complémentaires sont à notre disposition. Aujourd'hui, Lilith, Martine et les autres ont choisi les talons, les jupes et le féminin pour disséquer la misogynie.
On passe à la thématique que j'ai appelée la naturalisation de la misogynie ou la justification de la misogynie. Alors, dans cette partie, je voulais montrer en fait qu'on arrive toujours à justifier ou à ne pas se rendre compte de la misogynie, de l'effet que ça a et du renforcement sexiste que ça a. Alors, pourquoi ? Parce qu'on naturalise la misogynie, on prend pour acquis qu'on est débarrassé de ça, qu'on n'a plus de préjugés, plus de stéréotypes, et que du coup, ce qui nous reste, c'est que c'est justifié, que c'est logique, que c'est rationnel. Comme s'il y avait quand même au fond un bien fondé du système de valeurs qui méprise le féminin. Par exemple, tous les maux, toutes les faiblesses, tous les problèmes sont dus à du féminin. Enlever le féminin devient une solution. Et on part du principe aussi que dans le féminin, on ne peut pas retirer de force, ça ne peut pas être une solution. Toujours cette même histoire de talon où, en fait, je me suis fait mal au tendon d'Achille, qui est juste au-dessus du talon, cet été. Et ce qui m'est venu naturellement, c'était de mettre des talons pour soulager ce tendon. Et pendant toute la période après, où on me disait,
où je me plaignais d'avoir mal au tendon, on me disait, bah oui, bah, enlève tes talons, t'as vu les chaussures que t'as, etc. Et au final, quand je suis allée voir la médecin, elle m'a dit, bah, le mieux, c'est si jamais vous avez des talons, vous pouvez en mettre, ça vous soulagera le tendon. Mais sauf que ça, c'est pas dans la tête des gens, en fait, que des talons, ça peut être une solution, ça peut être positif. C'est féminin, c'est un signe d'oppression, c'est tout ce que vous voulez, c'est de la superficialité, c'est de la compétition pour séduire les hommes, c'est une mise en danger. Mais en tout cas, ça peut certainement pas être positif, ça peut pas être un choix, ça peut pas être une solution, ça peut pas être quelque chose pour se soigner, alors que là, c'était le cas. Et donc, en fait, on en est au fait que le féminin, ça reste toujours subi, et c'est jamais choisi. Alors que, justement, on peut revendiquer une féminité choisie, une féminité politisée et consciente et qui nous fait du bien, qui nous renforce. Juste pour montrer ce qu'on associe au féminin, ça va être l'inconfort, la superficialité, la bourgeoisie. À ça, on oppose le confort, la simplicité, la praticité. Et le naturel. Si le féminin, c'est du superficiel, ça veut dire que c'est du construit et qu'on fuit le naturel. Et les personnes qui ont tendance à vouloir enlever toute la superficialité, l'artificialité, est-ce qu'elles veulent revenir au naturel? Est-ce qu'il y a vraiment un naturel? Voilà, moi ça me pose question. Quand on me parle de nature, c'est un peu comme me parler de Dieu. C'est invoquer quelque chose qui n'existe pas pour justifié par un argument d'autorité, tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des choses qui, moi, me mettent en colère. Et surtout, en fait, ça fait que découle de tout ça l'obligation d'être irréprochable. Comme quand on prend une place qu'on n'a pas à prendre. Par exemple, quand on est une fille et que, eh ben, on prend une place à responsabilité, on n'a pas intérêt à se planter. Parce que on n'était pas obligé de prendre cette place et on a dû se battre pour l'avoir. Donc si c'est pour foirer, ça va nous retomber dessus. Et bien là, c'est pareil. Vu qu'on a choisi de mettre des talons, de se maquiller, d'être en jupe, et bien si on a froid, si on a mal quelque part, si on se fait emmerder dans la rue, ça va être de notre faute. On va nous culpabiliser parce qu'on avait le choix de faire autrement, parce que la norme, la base, c'est pas ça. Je suis désolée, pour moi, la base, c'est pas d'être en jogging et en basket, et je me fais vachement plus emmerder quand je suis comme ça, plutôt que quand j'ai des talons de 15 cm, et que là, je fais 1m85, et que je suis plus grande que la plupart des gens. Cette obligation d'être irréprochable et de pas montrer de faille, elle est très pénible aussi. On doit toujours assumer à fond tout ce qu'on fait, et surtout, oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être faible, du coup. Bon, bah, ça fait une stratégie aussi où ça nous pousse à être un peu bulldozer, quoi. Mais c'est un peu dommage. Il y a tout ce côté de misogynie justifiée du fait que, vraiment, si t'es en talon, tu peux pas courir. Ou, oui, mais vraiment, t'es pas capable de faire telle ou telle chose. Il y a un peu ce soupçon du manque de capacité, du manque de compétences, le soupçon que ça handicape, le féminin est un handicap, alors que ça handicape dans l'idée de faire des choses masculines. On ne doit pas mettre de talons ou on ne doit pas avoir les ongles faits parce que ça nous empêche de faire de la mécanique. Ben, là-dessus, d'une, non, ça n'empêche pas de faire de la mécanique. Et de deux, pourquoi ça serait plus important en fait de faire de la mécanique plutôt que de savoir marcher avec des talons? En fait, il y a aussi ces questions-là à se poser. Qu'est-ce qu'on valorise comme activité dans nos milieux, dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'on reproduit comme schéma dans nos milieux féministes à survaloriser constamment les activités masculines? Il y a plein d'activités féminines qu'on peut faire avec des attributs féminins, et il y a plein d'activités féminines qu'on peut pas faire avec des attributs dits neutres, c'est-à-dire des attributs masculins.
La misogynie, c'est quand je me plains d'avoir froid et qu'on me dit « bah fallait pas te mettre en mini-jupe » alors que j'ai juste oublié mon écharpe. Aujourd'hui, Lilith Martin et les autres vous parlent de misogynie.
J'ai envie de parler de fringues, de phares, de féminité, de misogynie. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas plus souvent de la façon dont on s'habille, dont on se présente, dont on apparaît, autrement qu'en des termes relativement dénigrants, comme si ce n'était que superficialité.
Je voulais aussi revenir sur cette idée, cette critique constante de la superficialité. Parce qu'en fait, il y a l'idée, le fait même, que le masculin, c'est la norme, c'est le neutre, et que le féminin, c'est toujours quelque chose qui vient en plus, qui vient s'ajouter à une norme, à un truc basique. Donc par exemple, pour l'exemple des toilettes, quoi, l'image, c'est pour un homme, c'est un corps, deux bras, deux jambes, une tête. Et puis pour une femme, pour marquer le féminin, on va rajouter une robe. Et c'est vraiment comme ça que c'est vu. Et alors qu'on pourrait se dire, la base, c'est d'avoir une robe, et puis les hommes ont quelque chose en moins. Cette idée qu'il y a quelque chose en plus, c'est aussi dans le langage qu'on le retrouve. Bref, on le retrouve dans plein de choses. Dans le fait qu'on précise quand c'est une femme, alors que quand c'est un homme, c'est obligatoire. Enfin bref, tout ce truc qui découle du fait que la norme, c'est d'être un homme blanc, hétéro, etc. Et que du coup, on est obligé on précise pas quand c'est ça, et on précise quand c'est une femme, qu'elle n'est pas hétéro, qu'elle n'est pas blanche, etc. Cette idée qu'il y a une norme, ça fait qu'on va pouvoir critiquer tout ce qui est dit féminin, le désigner comme étant quelque chose de superficiel. Alors là, moi, j'ai pas envie de me lancer dans un argumentaire qui viserait à prouver que tous ces attributs, eh ben, c'est pas forcément des choix, c'est pas forcément des trucs en plus. Par exemple, que le maquillage, le fait de se maquiller, y a plein de peuples, de gens qui font ça depuis des millénaires, que les talons, ça peut faire du bien au dos. Que pleurer, c'est bon pour les yeux. Bref, j'ai pas envie de rejustifier les attributs féminins, de les naturaliser ou quoi que ce soit. Non, en fait, là, j'avais plutôt envie de m'approprier totalement cette idée de superficialité et de mettre en garde plutôt contre sa critique. Parce qu'en fait, moi je trouve que critiquer la superficialité, c'est penser qu'il y a des choses à l'inverse, qui sont essentielles, qui sont neutres. Mais en fait, l'essentialisme, c'est pas mon féminisme. Je ne crois pas qu'il y ait de naturalité, ni même de nature, ni d'essence des choses. Mon féminisme, il vise à montrer que tout est construit, et que tout est superficiel, justement. Si je ne peux pas être superficielle, ce n'est pas ma révolution. Je n'ai pas été butch toute ma vie, et j'ai notamment eu une expression de genre plus féminine, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Un des changements que j'ai pu constater, c'est que je suis maintenant considérée comme moins superficielle, plus sérieuse, à chercher le pratique plus que le décoratif. Que je ne pouvais l'être avant, et aussi plus agressive, plus violente et autres caractéristiques plaisantes qui restent associées au butch. Et lorsque je suis considérée superficielle, c'est à cause des choses qui sont censées être féminines. C'est fou comme les gens peuvent se planter, parce que pour ma part, j'ai l'impression de ne jamais avoir autant assumé mon côté superficiel. Prenons les godasses. Je kiffe les grosses bottes coquées, montantes et si possible à sangle. J'en ai un bon nombre de paires assez considérables. Et franchement, ouais, les dogs de base, c'est pratique. Mais quand t'as des bottes où il te faut une heure pour mettre les lacets, puis les sangles, qui en plus te font un peu mal aux pieds, et où t'arrêtes pas de t'égratigner les jambes à cause des boucles des sangles, à un moment, il faut quand même admettre que ce n'est pas le summum du pratique. Et oui, quand je mets ce genre de chaussures, c'est parce que je veux avoir la classe, quitte à avoir mal aux pieds. Ce qui est quand même carrément superficiel.
exemple, j'aime bien les cravates. Dans le genre pas pratique, la cravate, ça se pose là. Ou les pointes aussi, parce que j'aime bien les bracelets à pointes. C'est mon côté fille du métal. Alors les petites pointes, ça va. Mais quand je suis vraiment superficielle, bah je sors les grosses impressionnantes, quitte à me galérer à chaque fois que j'enfile ou retire une veste. Bizarrement, ce n'est jamais là-dessus que les gens font des remarques comme quoi c'est superficiel, pas pratique. Non, ça va être plutôt sur les boucles d'oreilles, même sur celles qui ne me gênent pas. Les trucs un peu roses et un peu girly, les jupes, y compris celles qui me permettent plus de liberté de mouvement que la majorité de mes pantalons, etc. Et puis ce n'est pas à moi qu'on va dire que je suis une bourgeoise à cause de mes vêtements. Je pourrais avoir 300 euros de fringues sur moi, je me ferai toujours moins emmerder que la femme d'à côté qui s'habille intégralement en récup ou chez elle.
Dans cette partie, je voulais revenir sur ce que j'ai un peu dit en introduction,
En fait, le fait qu'on puisse tenir des propos misogynes sans que le but, ça soit du tout le renforcement du sexisme ou de faire passer des idées misogynes. En fait, ça arrive souvent malgré soi, puisque la misogynie s'est intégrée. Et donc, voilà, je voulais revenir sur ces propos qu'on peut tenir, par exemple, alors que notre but, c'est pas le sexisme, notre intention, c'est pas d'être sexiste ou d'être misogyne, mais c'est plutôt la critique, par exemple, d'un autre système de domination. Et souvent, ça marche avec la critique de classe. D'abord, je voulais revenir sur le fait que le féminisme, c'est une lutte bourgeoise, qu'il a été critiqué et dénoncé comme n'étant pas une vraie lutte, que les vraies luttes, c'est les luttes ouvrières, c'est les luttes de classe, et que le féminisme n'est qu'une lutte secondaire. C'est une lutte qu'on pourrait se permettre d'avoir dans une société quand toutes les autres luttes sont déjà bien entamées. C'est une sorte de lutte loisir que les bourgeoises qui s'ennuyaient ont inventée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la justification de la légitimité du féminisme. Je voulais juste rappeler que le féminisme, ça lutte contre des inégalités au quotidien, dans le monde du travail, dans l'espace public, dans l'espace privé, contre la pauvreté qui touche en très grande majorité les femmes, contre des constructions sociales, des normes de genre, des normes de relations sociales, d'hétérosexualité, contre la violence. Et que, en fait, s'il y a des critiques à faire à l'intérieur, notamment sur l'hétérocentrisme ou sur le racisme, donc des critiques qui ont été faites à différents moments de l'histoire et encore aujourd'hui, bien heureusement, c'est très différent de mener ces critiques de l'intérieur ou de critiquer la légitimité du féminisme en tant que lutte à part entière. Et pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'en fait, cette critique que le féminisme est une lutte bourgeoise et que les féministes sont des petites bourgeoises, ça a son pendant à l'intérieur du féminisme, ou en tout cas entre féministes, dans certains discours, puisque à l'inverse, on va avoir des discours de féministes qui vont utiliser la misogynie pour faire une critique de classe. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour critiquer le fait d'avoir plein de fric dans des pensées qu'on va critiquer le soin avec lequel une personne s'est préparée, habillée, maquillée. Un peu ce qu'on a pu entendre dans l'extrait « Si je ne peux pas être superficielle, ça n'est pas ma révolution ». Et donc tout ça, en fait, c'est supposé plusieurs choses. C'est supposé, d'une part, que ça coûte de l'argent de s'habiller comme ça, alors qu'on peut voler, qu'on peut fabriquer, qu'on peut récupérer. C'est supposé que ça prend du temps, qu'on ne passe pas à faire quelque chose d'utile de se préparer comme ça. Alors que je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de passer du temps comme on veut, à faire des choses inutiles. Est-ce qu'on est vraiment obligé de rester dans les exigences de l'efficacité ? Surtout que j'ai l'impression qu'on n'y reste pas, mais qu'il y a juste certaines activités qu'on peut critiquer. C'est supposé aussi que passer du temps sur son apparence, c'est effectivement inutile, c'est pas subversif. Alors, à quand le retour de l'uniforme d'ailleurs ? Des fois, on n'en est pas très loin. C'est penser qu'il n'y a pas de subversif dans l'habillement, dans le féminin. J'aimerais qu'on m'explique depuis quand les attributs féminins, une attitude féminine, c'est devenu une norme. J'ai dû rater un changement significatif, parce que c'est quand même quelque chose qui est complètement critiqué et dominé la plupart du temps. C'est oublier qu'on critique que le féminin, pour critiquer la bourgeoisie, qu'on va critiquer peut-être des fois le costard, mais encore, une personne qui vient habillée en costard, on va plus avoir tendance à la valoriser, à lui dire que c'est rigolo, on va comprendre le subversif qu'il y a derrière, alors que être habillé en robe, ça va rester un attribut de bourgeoise. C'est nier qu'être apprêté et adopter un genre féminin, Bah, ça peut être une stratégie de lutte ou de survie parfois, qu'on peut gagner de la marge de manœuvre en maîtrisant ses codes pour regagner du pouvoir dans des négociations face à des puissants ou à des dominants, par exemple. Et en fait, le danger de toutes ces critiques, c'est qu'elles sont applicables à d'autres meufs qui ont les mêmes stratégies, mais qui sont pas bourgeoises pour deux sous. Et donc, utiliser la misogynie pour critiquer les bourgeoises, eh ben, ça renforce le sexisme et ça sert les critiques du féminisme. Alors, encore une fois, bravo la misogynie, quelle efficacité. La misogynie, c'est quand je me plains de mon mal de dos et que tout ce qu'on me dit, c'est « enlève tes talons ». Comment la misogynie sert le sexisme et plus encore, comment la misogynie casse les solidarités féministes. La misogynie agit comme une menace, un garde-fou, un stigmate qui peut s'abattre sur les personnes qui prendraient un peu trop de place sans faire allégeance aux valeurs masculines. Si on s'approprie les attributs dits féminins, qu'on les utilise, qu'on en tire même du pouvoir, bref, qu'on les détourne de ce qu'ils sont censés être, un carcan pour assigner un rôle dominé aux femmes, la misogynie reste la critique facile pour te remettre à ta place, qui souvent n'est qu'un peu d'humour. Et puis, on l'a bien cherché, on a osé transgresser une norme qui veut que ces attributs nous affaiblissent. Non pas nous aide à avoir du pouvoir, à nous émanciper. La misogynie culpabilise, individualise, casse de nouveau les solidarités féministes. D'abord, entre féministes, car toute remarque misogyne, encore une fois, même si elle n'était pas intentionnellement misogyne, isole, humilie, fait remarquer au groupe, mais mal à l'aise. Plus largement, la misogynie met et remet en concurrence, fait croire qu'on est en concurrence. Et c'est bien là une limite des stratégies que l'on peut adopter pour qu'elles restent féministes. Éviter à tout prix de se désolidariser et de se mettre en concurrence. La misogynie, c'est dire qu'on ne peut pas être féministe et mettre une mini-jupe, parce qu'on ne peut rien faire avec, on ne peut pas écarter les jambes. Sauf qu'on peut tout faire avec, si on s'en fout, si on n'a pas peur de passer pour une mauvaise fille.
Bang. Going on to bitch, I'll see for a minute. kisses lead me just to kill. Shift gear automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Quand on reprend une partie de tout ce qu'on vient de dire et qu'on met tout ça bout à bout, eh bien la misogynie, enfin en tout cas une de ses composantes, se rapproche beaucoup de l'infantilisation. Alors là-dedans, on a l'idée que les femmes, les personnes féminines ne sont pas capables de décider pour elles-mêmes. Avec toujours ce soupçon de ne pas être déconstruite, de ne pas être consciente de leur condition de femme dominée. Il y a l'appropriation du corps féminin ou du corps féminisé. Il y a la suspicion de bêtise, de manque d'intelligence. Il y a le fait qu'on ne les prend pas au sérieux. Il y a l'idée... d'une faiblesse physique, d'une incapacité physique, mais aussi d'un manque de compétences, que ce sont des personnes à qui on doit expliquer ou enseigner des choses. Et puis, l'état de faiblesse générale, donc une faiblesse psychologique, bien sûr, l'idée qu'on a des caprices, etc. Bref, c'est là où on voit se rejoindre des luttes telles que le féminisme et les luttes contre la domination adulte, puisque effectivement toutes ces caractéristiques, c'est aussi des caractéristiques qu'on applique aux enfants et qui permettent de maintenir les enfants sous une certaine domination, de justifier une domination sur les enfants. Et on revient du coup à cette idée que tout ce qui n'est pas adulte et masculin est constamment déprécié, dévaloriser pour justifier une domination sur ces personnes-là. La misogynie, c'est quand même dans les milieux féministes, on se force à faire des trucs masculins qu'on n'a pas envie de faire pour gagner en crédibilité. Femme. Tu m'as greffé des talons pour m'empêcher de courir, mais ta rotule, sous mes coups, n'en est que plus fragile. Si je ne peux pas me sauver, je t'affronterai, et tu risques d'être déçue de l'issue du combat. Tu m'as prise pour une femme, erreur fatale, une syllabe de trop que j'ai sectionnée en quittant Hétérolande. Essaye donc de me réécrire, et tu verras qu'à propos de sectionner, mon expérience ne se limite pas à la grammaire. Tu voudrais que je me taise, c'est raté. La femme est même dans l'hémicycle des éminences masculines. Tu fantasmes peut-être, mais tu restes à distance. La jupe se fait trop courte, je sors du champ du respectable. Ça m'arrange, tu te dis que je ne suis pas abordable. T'y entraves que dalle, en même temps t'existes pas dans l'espace où je construis. Mais toi, toi ma sœur féministe, qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'est-ce que tu méprises? En réponse, en défense et en sincérité. L'étiquette, c'est ce qu'on te colle. La pancarte, c'est ce que t'es. Elle est tout sauf limitée, mon arme de visibilité. Ce que je suis n'est pas un jeu. Je ne suis pas une performance. Je sais que toi, tu me réduis à une démarche esthétique qui décore ton salon queer. Mais pour qu'on sache, faut bien que je montre. Car c'est bien ma gueule de femme qui révèle ta misogynie cachée. Toi qui te retiens si bien d'habitude, face à moi d'un seul coup, je te sens tendue. Tu m'évites ou m'envahis. Tu me parles de ma jupe, de mon sac. Mais jamais tu ne m'abordes pour ce que je suis. Ça rentre pas dans tes cases, un décolleté qui décortique Wittig. Mais j'ai rien à justifier, juste un peu à partager. La misogynie, c'est donc quelque chose qui est très réactionnaire. C'est une critique de cette subversion-là, puisque s'approprier les codes du féminin, ça reste un des moyens de ne pas rentrer dans la norme dominante et de continuer à subvertir nos identités et lutter contre le sexisme et l'hétéropatriarcat. L'émission Lilith Martine et les autres consacrées à la misogynie sur Radio Canus 102.2 touche à sa fin. Alors pour finir, je voulais juste citer tous les éléments que j'ai utilisés. Donc alors on commence par la musique. On a pu entendre dans l'ordre Cherry Bomb des Runaways, Material Girl de Madonna et Bad Girls de M.I.A. Pour les brochures, donc y a une brochure que j'ai utilisée en particulier qui s'appelle Un bruit de grelot. Donc c'est le numéro 2 qui a un dossier spécial misogynie que vous trouvez donc dans tous vos bons infokiosques. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur internet. Normalement sur unbruitdegrelot.herbefolle.org. Voilà. Et vous pouvez écrire à la personne aussi qui coordonne et fait en grande partie cette brochure. Donc à unbruitdegrelot tout attaché @herbefolle.org. On a pu entendre aussi un extrait du texte Femme, écrit par Caillou, et qu'on peut trouver dans le recueil du collectif Slam de Fond, qui est un collectif de slam. Et bien sûr aussi, si j'ai pu réaliser cette émission, alors je l'ai réalisée toute seule, certes, mais il y a beaucoup de copines qui m'ont aidé à réfléchir et qui ont apporté leurs réflexions. Alors merci à elles. Et la semaine prochaine, vous retrouvez On n'est pas des cadeaux. Et on se quitte avec une dernière musique. Donc c'est Nina Simone. Et la chanson, c'est Ain't Got No, I Got Life. Bonne soirée.